Tipi.
Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Et on revient sur les conséquences des sanctions américaines à l'encontre de l'ancien président haïtien Michel Martelly, la responsable du programme au réseau national de défense des droits humains, est avec nous. Focus également sur un marché aux apparences tout à fait normales au Pérou, marché de Belén à Iquitos, devenu un haut lieu de trafic de faune sauvage. Et puis l'actualité des Outre-mer. À la une, l'auteur présumé du tir qui a tué un petit garçon à Fort-de-France en Martinique a été placé en détention provisoire, Benoît Ferrand.
C'est la deuxième fois cette année en Martinique qu'un enfant est victime de ce qu'il faut bien appeler la bêtise crasse. Vous entendrez tout à l'heure la désolation de la procureure de la République de Fort-de-France.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous appelle dans 20 minutes.
RFI Midi.
Et d'abord le journal avec Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Et c'est reparti pour un tour en France. Le président Macron lance un second cycle de négociations politiques.
Objectif toujours, trouver un nom pour Matignon dans cette confusion. Une chose est claire, en tout cas, le chef de l'État a balayé l'option d'un gouvernement dirigé par le Nouveau Front Populaire, donc l'option de Lucie Castet à Matignon. Colère à gauche qui dénonce un coup de force ou encore un déni de démocratie. Malgré cela, de nouvelles discussions ont donc repris ce mardi à l'Élysée, Charlotte Orient-Tomaca, mais sans LFI, sans le Rassemblement National. Le président Macron souhaite les ouvrir, ces discussions, à des personnalités d'expérience pour tenter enfin de sortir de l'impasse.
Oui, le bras de fer se durcit entre la gauche et le chef de l'État qui poursuit donc le processus de consultation. Écologistes et socialistes ont annoncé boycotter le rendez-vous, un bureau national du PS était prévu à la mi-journée, mais deux lignes semblent déjà se dessiner au sein du parti, avec certains cadres qui seraient tentés de laisser la porte ouverte à de possibles négociations avec Emmanuel Macron, quand d'autres excluent formellement cette option, ne souhaitant pas se désolidariser du nouveau Front Populaire. D'ores et déjà, la France Insoumise durcit le ton et appelle, avec des organisations syndicales étudiantes, à une mobilisation dans la rue le 7 septembre, ce qui n'empêche pas le président de continuer ses consultations. Les députés indépendants du groupe Liotte étaient reçus dans la matinée. Les regards se tournent donc plus que jamais vers la droite. Un rendez-vous avec le chef de file des députés de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, son homologue au Sénat, Bruno Retailleau, ainsi que la secrétaire générale du parti, Annie Genevard, est prévue ce mercredi. La liste des personnalités consultées par Emmanuel Macron n'est pas connue, mais les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient être reçus également. Pour le moment, aucune visibilité sur un délai pour aboutir à la nomination d'un Premier ministre. Cela pourrait donc prendre encore du temps.
Charlotte Orient-Tomaca, le président français avait par ailleurs récuser toute décision politique après l'arrestation du patron de la plateforme de messagerie Telegram, Pavel Durov. C'était dimanche près de Paris et il est toujours en garde à vue. Eh bien, la Russie réclame ce matin des preuves solides et met en garde Paris contre toute tentative d'intimidation.
La Russie qui a lancé de nouvelles frappes la nuit dernière en Ukraine, 4 personnes tuées.
Et cela au lendemain d'attaques massives sur 15 régions du pays. De son côté, l'armée ukrainienne dit contrôler près de 1300 km² dans la région russe de Kursk. Depuis le début de son offensive il y a 3 semaines, elle affirme aussi avoir capturé près de 600 soldats russes. Et puis j'ajoute que le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce le test réussi d'un premier missile balistique ukrainien.
Aux États-Unis, c'est défection dans le camp de Donald Trump en vue de la présidentielle de novembre.
Des cadres républicains s'étaient déjà ralliés à sa rivale Kamala Harris lors de la convention démocrate. Et donc maintenant, c'est au tour de plus de 200 collaborateurs républicains. Ils ont travaillé pour l'ex-président George Bush ou l'ancien sénateur John McCain. Et ils signent une lettre ouverte, Mathis Limano, inquiet à l'idée de voir éventuellement Donald Trump retourner à la Maison-Blanche.
Un nouveau mandat nuirait aux gens ordinaires et affaiblirait nos institutions sacrées, disent les signataires de la lettre. Publiée lundi par le quotidien USA Today, elle rassemble 238 anciens collaborateurs de haut rang, des présidents George Bush, père et fils, des sénateurs John McCain et Mitt Romney. Ils étaient leurs chefs de cabinet, directeurs de campagne et vont voter pour Kamala Harris à la présidentielle de novembre. Car pour eux, élire Donald Trump représente un danger pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. Les signataires reprochent aux milliardaires et à son colistier Gidi Vents de se prosterner devant des dictateurs comme Vladimir Poutine et de vouloir tourner le dos aux alliés des Américains. C'est donc un vote contre Donald Trump et non pour la candidate démocrate. Nous avons des désaccords avec Kamala Harris et Tim Walz, mais l'alternative est tout simplement intenable. En 2020, déjà, un groupe similaire de républicains anti-Trump avait appelé à voter pour Joe Biden. Leurs voix ont été significatives, rappellent les signataires de cette lettre ouverte. En novembre, ils remettent ça car le pays passe bien avant le parti.
Donald Trump et ce nouveau rebondissement dans la bataille judiciaire autour de lui, le procureur spécial Jack Smith demande le rétablissement de la procédure contre l'ancien président pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. On le rappelle, le mois dernier, à la surprise générale, un tribunal de première instance avait annulé ses poursuites.
RFI Midi.
Cette annonce d'Israël, l'armée annonce donc avoir sauvé un otage dans la bande de Gaza, un homme qui avait été enlevé le 7 octobre dernier par le Hamas, donc au tout début du conflit entre Israël et le Hamas. Pas plus de détails pour le moment sur cette opération.
Et on y revient évidemment dans nos prochaines éditions d'information. Pour leur direction, l'Australie, puisque le pays donne un tour de vis à l'entrée d'étudiants étrangers sur son territoire.
Oui, l'an prochain, en 2025, 270 000 visas seront délivrés. C'est beaucoup. Mais c'est moitié moins que pour l'année 2022-2023. Et cela inquiète les autorités australiennes, Gali Bonin, puisque c'est une manne budgétaire conséquente qui menace de disparaître.
Oui, venus d'Inde, de chez nous, des Philippines, les étudiants étrangers sont au cœur de l'économie australienne. En tout, 250 000 emplois en dépendent, frais de scolarité élevés, dépenses pour le logement et la vie courante. En 2023, ce secteur a rapporté 28 milliards de dollars à l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese ici parle lui-même d'un apport économique absolument vital. Alors, pourquoi ce coup de hache ? Parce que l'immigration atteint des records et elle a grimpé de 26% l'année dernière, à moins d'un an du prochain scrutin, ça en fait un enjeu électoral de taille. Selon les derniers sondages, la majorité des Australiens jugent que l'immigration est responsable de l'explosion des prix de l'immobilier. Alors le gouvernement travailliste multiplie les offensives. Le mois dernier, il a doublé le prix des visas d'études et a promis de lutter contre les failles qui permettent aux étudiants de prolonger sans cesse leur séjour. Le ministre de l'Éducation a tout de même tenté de se faire rassurant. Selon l'agence de notation Moody's, ce nouveau plafond migratoire aura un impact limité sur les universités australiennes.
Gali Bonin.
Retour sur l'affaire des rugbymen français inculpé pour viol en Argentine. Il s'appelle Oscar Gigou et Hugo Oradou. Actuellement inculpé, la plaignante a fait une tentative de suicide.
Oui, c'est ce qu'a indiqué sa défense. Cette jeune femme ne va donc pas assister à la nouvelle audience dans cette affaire prévue aujourd'hui, sachant que la défense des deux joueurs français avait prévu de déposer justement une demande de non-lieu, Théo Conscience.
Selon ses avocats, la plaignante a tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu assister à l'audience et réaliser l'examen psychologique prévu ce jour-là. Au micro de Canal Siété, l'avocate de la femme de 39 ans a précisé que sa cliente avait laissé une lettre manuscrite dans laquelle elle explique son geste par la pression et le harcèlement qu'elle ressent depuis le début de l'affaire. La plaignante accuse Hugo Oradou et Oscar Gégou de l'avoir violée dans la nuit du 6 au 7 juillet à Mendoza, où le 15 de France venait de disputer un test match contre l'Argentine. Les deux joueurs reconnaissent avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais soutiennent qu'elle était consentante. Mis en examen pour viol en réunion, les deux Français avaient été arrêtés le 8 juillet, puis remis en liberté il y a 15 jours avec l'interdiction de quitter l'Argentine, après que le parquet a remarqué des contradictions notoires dans la version de la plaignante. Leurs avocats ont indiqué leur intention de déposer une demande de non-lieu ce mardi afin d'obtenir leur retour en France. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et puis on termine ce journal avec la bonne nouvelle du jour pour les fans d'Oasis, le mythique groupe de rock anglais qui se reforme, qui annonce une tournée mondiale à partir de juillet 2025. Les deux frères ennemis, Liam et Noel Gallagher, ont fini par faire la paix après 15 ans de guerre froide, de piques via médias interposés et même d'une bagarre au festival Rock en Seine près de Paris. C'était en 2009 avec au passage une guitare cassée et un concert annulé. Oasis donc est de retour. La tournée débutera le 4 juillet prochain à Cardiff, au Pays de Galles.
Et pour prendre ses places, effectivement, ce sera samedi matin. Le rendez-vous est donc pris pour prendre les places pour cette tournée. C'était le journal de Charlotte Hydrac. Merci à vous. 15h10 ici à Paris, 9h10 à Port-au-Prince.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
On commence en Haïti. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Et ce qui fait la une de la presse, c'est le déménagement de Gary Conille au Champ de Mars de Port-au-Prince.
Oui, le Premier ministre élit domicile dans les locaux du Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti, tout en conservant un bureau à la résidence officielle, écrit le Nouvelliste. Ce nouveau bureau lui permettra de travailler aussi comme ministre de l'Intérieur. Il a la double casquette. Cette décision participe à une stratégie visant à reconquérir l'espace administratif au centre-ville de Port-au-Prince, écrit le Nouvelliste. Qui rappelle que depuis le 29 février dernier, le Champ de Mars s'est transformé en théâtre d'affrontements armés entre forces de l'ordre et criminels.
Et toujours dans le Nouvelliste, on apprend que la police kényane déployée en Haïti, hein, il s'agit de 400 hommes pour le moment, n'aurait pas reçu l'intégralité du salaire promis depuis 2 mois.
Le quotidien haïtien reprend des informations données par CNN. Les officiers kényans s'attendaient à recevoir un supplément important pour leur déploiement en Haïti. Une mission épuisante, plus typique d'une force militaire que d'une force de police, écrit le Nouvelliste. Certains, interrogés par CNN, ont dit leur frustration alors qu'ils ont besoin d'argent pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. La rentrée au Kenya, c'est cette semaine. Il y a 2 jours, la mission multinationale de sécurité affirmait que les fonds devaient être versés cette semaine.
On reste en Haïti puisque depuis la semaine dernière, l'ancien président du pays, Michel Martelly, est visé par une série de sanctions décrétées par les États-Unis. Sanctions financières notamment, comme le gel de ses avoirs ou encore l'interdiction de commercer et de se rendre aux États-Unis. Washington l'accuse d'avoir facilité le trafic de drogue et perpétué la crise sécuritaire qui touche le pays. Alors, quelles répercussions en Haïti ? La justice haïtienne peut-elle à son tour s'emparer du dossier Martelly ? Des questions que l'on se pose en Haïti. Et on y revient en longueur avec Rosie Auguste du Sénat. Elle est avocate et responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains. Elle répond à Vincent Souriau.
Bonjour Rosie Auguste du Sénat. Le gouvernement de Gary Conille demande aux États-Unis de partager ses informations. Le Premier ministre aimerait avoir les éléments qui ont permis à Washington de sanctionner Michel Martelly. Est-ce que c'est une démarche que vous encouragez ?
C'est carrément une demande légitime. Parce que, oui, nous, en Haïti, nous avons besoin de constituer les dossiers sur lesquels se sont penchées les autorités américaines pour arriver à ces sanctions. Ce devrait être quelque chose de systématique, un accord systématique, allons dire, entre l'État haïtien et les autres États qui prennent des sanctions contre des personnes qui sont impliquées dans le maintien du climat de terreur dans lequel nous vivons ici en Haïti.
On se dit que les États-Unis auraient pu aller plus loin, peut-être jusqu'à l'inculpation de Michel Martelly. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les Américains de frapper plus fort?
Nous ne savons pas vraiment pourquoi. C'est quand même une sanction qui souligne que Joseph Martelly est impliqué dans la grande criminalité, mais nous pensons que oui, ils auraient pu, au niveau des États-Unis, aller plus loin. Et oui, certainement, d'autres criminels haïtiens qui se trouvaient même en Haïti ont été extradés pour être jugés et condamnés aux États-Unis. Et on se rappelle aussi qu'en octobre 2023, le panel d'experts des Nations Unies avait déjà détaillé dans un rapport des liens que Michel-Joseph Martelly entretenait avec des gangs armés. Et aujourd'hui, qu'il y a cette sanction qui est prise à son encontre, particulièrement pour son implication dans le trafic de produits psychotropes, il est clair que nous pensons qu'ils auraient pu faire mieux, mais nous ne savons pas. Nous attendons un portage de dossier. Vous savez, cette entraide judiciaire, c'est quelque chose que nous demandons depuis le premier jour où les États canadiens et américains ont commencé à prendre des sanctions à l'encontre de personnalités haïtiennes. S'il n'y a pas cette entraide, on ne pourra pas en Haïti s'en sortir parce que nous, par exemple, au niveau de la société civile, nous avons besoin d'avoir ces informations pour pouvoir mettre la pression sur les autorités judiciaires haïtiennes. La pression, nous ne pouvons la mettre que sur nos propres autorités haïtiennes qui, elles-mêmes, sont très laxistes par rapport à tout ce qui a toujours été reproché et qui est encore reproché à Joseph Michel Martelly, d'autant plus qu'aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui est très puissant au sein du régime même qui est au pouvoir aujourd'hui.
Est-ce que vous avez tout de même le sentiment que ces sanctions peuvent inquiéter M. Martelly et faire peser un doute sur son avenir politique en Haïti ?
C'est vrai que Joseph Michel Martelly, il est très puissant aujourd'hui encore. Il l'a toujours été depuis son avènement au pouvoir d'ailleurs. Il a passé toute l'administration de Jovenel Moïse à être aussi très puissant et aujourd'hui encore il l'est. Mais nous pensons quand même que ces sanctions touchent le régime lui-même, le parti PHTK. Et aujourd'hui, par exemple, nous estimons que pour ce parti politique, participer aux élections, ça va être compliqué, nous pensons. Du moins, sinon pour tout le parti, tout au moins pour Michel-Joseph Martelly, parce que ici en Haïti, à un certain moment, on parlait justement de son retour à la tête du pays.
Merci beaucoup, Rosie Auguste du Sénat.
Maître Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au réseau national de défense des droits humains, jointe par Vincent Souriau, 15h15 ici à Paris.
RFI Midi.
Je reviens vers vous, Christophe Paget, pour les titres de la presse sud-américaine. On commence au Venezuela, puisqu'Edmundo González Urrutia, qui était le candidat de l'opposition à la présidentielle, opposition qui revendique la victoire, je vous le rappelle, est cité une seconde fois à comparaître.
Hier déjà, rappelle El Universal, l'ancien candidat de la plateforme démocratique unie devait témoigner de son implication dans des délits liés à la divulgation de registres électoraux. Mais il ne s'était pas présenté. Alors, les registres électoraux, justement, rappelons que le Conseil national électoral ne les a toujours pas publiés. Allait-il le faire hier ? Alors que le site du CNE était de nouveau en ligne après un mois de fermeture, il affirmait avoir été victime d'une attaque informatique il y a un mois, juste au moment où il allait annoncer la victoire du président Nicolas Maduro à la présidentielle. Eh bien non, note tal quel, pas de publication des registres électoraux. De toute façon, la mise en ligne n'a duré que quelques heures, pour cause, affirme Ultimas Noticias, quotidien proche du pouvoir, de nouvelles attaques informatiques. Mais au final, s'agit-il d'attaques informatiques ou d'une censure, s'interroge tal quel. Censure pour ne pas publier les registres électoraux. Car selon des spécialistes, les copies de ces registres qu'a publié l'opposition pour montrer qu'elle avait bien gagné, copies qui affirment le pouvoir sont des faux, correspondent bien au vote du 28 juillet, elles correspondent bien à ce qui s'est passé au moment de la présidentielle. Et certains affirment, après avoir étudié l'échafaudage technique du site du CNE, que le mois de blocage n'est pas dû à un piratage, mais bien à une désactivation du portail.
Et cette présidentielle vénézuélienne, Christophe, provoque des frictions en Amérique latine.
Daniel Ortega, le président nicaraguayen, a qualifié de honteuse la gestion des élections vénézuéliennes par le président brésilien Lula, rapporte au Brésil Estadão. Il l'accuse d'être aligné sur les intérêts des États-Unis et rappelle au passage d'anciens scandales de corruption liés à son parti. Critique aussi du président colombien Petro pour les mêmes raisons. Lula, rappelle Estadão, autrefois allié historique du chavisme, a adopté une position critique depuis la proclamation de la victoire de Nicolas Maduro. Il a même suggéré d'organiser de nouvelles élections et déclaré que le Venezuela vivait sous un régime très désagréable.
Au Guatemala, à présent, Christophe Paget, un tribunal estime que José Rubén Zamora, le journaliste et fondateur du journal El Periódico, peut, en attendant un nouveau procès, bénéficier de la liberté conditionnelle avec tout de même assignation à résidence.
C'est la seconde fois que le tribunal prend cette décision, rappelle La Hora. La première, c'était le 15 mai dernier, mais à la demande du ministère public, elle avait été révoquée et José Rubén Zamora était resté en prison. Seconde tentative donc pour le tribunal, mais de toute façon, indique Prensa Libre, le journaliste ne pourra pas sortir de prison parce qu'il fait face à un autre procès. Malgré tout, il s'est dit satisfait de la décision, précisant « Je suis serein, je ne survis pas, je vis, j'aime mes livres, j'ai mes lectures ». Le journaliste de 68 ans est enfermé depuis juillet 2022, écrit Prensa Comunitaria, pour blanchiment. Le jugement a depuis été annulé. Et puis donc dans une autre affaire pour obstruction à la justice. Il y a un mois, le président Bernardo Arevalo, qui dirige le pays depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, qualifiait d'abus de pouvoir les poursuites engagées contre José Rubén Zamora, parlant d'un exemple clair de la corruption et de l'abus de pouvoir qui règne dans le ministère public.
Direction le Pérou à présent et précisément la ville d'Iquitos, 500 000 habitants, ville enclavée au cœur de l'Amazonie et accessible en bateau et en avion seulement. Pourtant, ces dernières années, elle est devenue un haut lieu du trafic de faune sauvage dans une zone parmi les plus riches en biodiversité dans le monde. L'an dernier, les autorités péruviennes ont confisqué plus de 5000 animaux voués au trafic et traquent la vente et la possession de faune sauvage, en particulier sur le marché de Belén à Iquitos, où s'est rendu Juliette Chénion, reportage.
Au marché de Belén, le plus grand de la ville, tout s'achète et tout se vend. En plus des fruits tropicaux, des poissons amazoniens et du tabac qui sèche sur le sol, les clients viennent pour la viande d'animaux sauvages, de lézards ou encore de tortues dont les vendeurs exposent les entrailles.
On est 4 agents pour contrôler, c'est parfait, on y va.
Avec une dizaine de policiers et de fonctionnaires, le procureur Franco González parcourt les allées étroites du marché.
Nous sommes en train de mener une opération de prévention afin d'éradiquer les délits liés au trafic illégal de faune sauvage.
Ici, plus d'un quart des produits animaux vendus sont issus d'espèces menacées ou en voie de le devenir. Au bout de quelques minutes, la tension monte avec les commerçants et les policiers quittent le marché. Dans un sac plastique, la viande saisie par les agents.
C'est de la viande de paca, on reconnaît les pattes.
C'est une sorte de gros rongeur, un rat géant.
C'est vendu autour de 7,50€ le kilo. Les communautés natives ont le droit de le chasser pour leur propre consommation. Mais la vente sur le marché, c'est interdit. C'est une espèce en voie de disparition.
La possession et la vente de produits issus de faune sauvage peuvent être punis de 5 ans de prison et plusieurs milliers d'amendes au Pérou. Certains animaux sont aussi traqués à des fins spirituelles, médicinales ou d'artisanat, achetés par les touristes au marché Anaconda, par exemple, un marché sur pilotis en bord de fleuve.
Vous n'avez pas besoin de mettre ces plumes d'oiseaux, voilà ce que vous devez comprendre. Ne demandez plus ces produits, même si on vous les vend, ne les achetez plus.
La major Carmen Crespo de la police environnementale fait saisir les porte-bonheurs à plumes, les canines de jaguar et les peaux de reptiles. Certaines pièces sont retrouvées dans les arrière-boutiques chez des commerçants agacés et méfiants.
On va finir par mourir de faim. Ils nous prennent toute notre marchandise. C'est pas possible. Les peuples indigènes viennent nous vendre leurs produits et nous, si on leur achète, c'est aussi pour les soutenir.
J'espère que ce que la police aura saisi sera bien incinéré et pas revendu ou offert ailleurs.
Carmen Crespo, la policière, veut croire à l'évolution des mentalités, au moins du côté des vendeurs péruviens.
L'artisanat se vendra toujours, mais c'est important de trouver de nouvelles manières de le fabriquer sans pièces animales. C'est bien sûr une question de culture. Je crois qu'avec le temps, le message passe et il y a de plus en plus de personnes sensibilisées.
Mais la demande ne baisse pas et ce trafic illégal augmente dans le pays, poussé par la vente en ligne. En Chine, un crâne de jaguar se revend des milliers d'euros, plus de 100 fois le prix d'achat à Iquitos. Et l'enjeu dépasse la préservation des espèces, explique William Flores, biologiste du service régional de faune sauvage.
Les animaux sauvages peuvent transmettre des virus à l'homme, comme cela s'est vu avec le Covid. Et ceci peut générer des pandémies.
Plusieurs fois par mois, William Flores et ses collègues recueillent des espèces destinées au trafic ou à devenir des animaux de compagnie et les confient à des centres spécialisés. L'un d'entre eux, le Créa, à une heure de route d'Iquitos, accueille des dizaines de boules de poils, de plumes et d'écailles sous la supervision de Kelly Tapayuri.
Notre but est de remettre sur pied les animaux pour qu'ils puissent retourner dans leur milieu naturel.
À côté d'elle, deux étudiantes vétérinaires soignent la patte infectée d'un perroquet vert.
On va lui retirer le pansement et nettoyer la plaie. Comme vous voyez, il s'inquiète un peu.
Pour s'occuper des singes écureuils, des lamantins ou des alligators, le Créa compte sur des dons, faute de subventions publiques. Le centre vit aussi des visites, une occasion de sensibiliser les touristes.
Pas de contact avec les animaux sauvages, pas de selfie avec eux, car cela encourage la capture des animaux et génère du stress. Les espèces finissent par mourir et d'autres sont achetées pour les remplacer. Sans s'en rendre compte, les touristes participent au trafic.
Une vingtaine d'animaux doivent être relâchés ces prochains jours dans la nature. Un travail sans fin. Le trafic d'espèces sauvages est le quatrième plus important dans le monde, souvent lié à d'autres trafics comme la déforestation illégale ou la drogue, en expansion également dans la région. Juliette Chénion, Iquitos, RFI.
Et ce reportage, comme tous les autres d'ailleurs, vous le retrouvez sur notre site RFI.fr, rubrique Le journal d'Haïti et des Amériques.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on a commencé ce journal d'Haïti et des Amériques en Haïti. On le termine dans le pays, Christophe Paget, puisque l'écrivain haïtien Gary Victor, finaliste du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone.
Oui, ce prix, c'est l'une des distinctions les plus importantes dans le paysage littéraire africain, indique Le National. Gary Victor fait donc partie des 5 finalistes pour son roman Le violon d'Adrien, l'histoire d'un enfant qui rêve de devenir violoniste. Les 4 autres finalistes viennent du Gabon, de Tunisie, de Madagascar et de Guyane. Le prix Ivoire sera décerné le samedi 23 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Et on suivra cela avec attention. Merci beaucoup Christophe Paget, 15h24 ici à Paris.
RFI Midi.
Le journal des Outre-mer avec nos confrères de La Première. On va en Martinique, puisque l'auteur présumé du tir qui a tué un petit garçon à Fort-de-France a été placé en détention provisoire, Benoît Ferrand.
Touché en pleine tête mercredi dernier par une balle perdue, le malheureux petit bonhomme est finalement décédé. Et c'est la deuxième fois cette année en Martinique qu'un enfant est victime de ce qu'il faut bien appeler La bêtise, pour rester poli, aussi crasse que criminelle, comme l'a d'ailleurs souligné hier la procureure de la République de Fort-de-France, Clarisse Taron.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un enfant qui avait pris une balle dans l'abdomen le dimanche précédent le carnaval. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui faisait du vélo. Heureusement, à l'époque, la balle avait traversé son abdomen sans rien toucher de vital et il s'en était bien sorti. Et là, j'ai envie de dire, dans l'année, on a deux enfants parfaitement innocents qui sont juste là au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui, pour l'un, est quand même sérieusement blessé, parce que c'est pas complètement anodin de se faire traverser le ventre par une balle, et pour l'autre, décède pour des conneries. La première affaire, c'était une histoire de parking, et là, c'est des gribouillés sur une voiture.
Un tout autre sujet, une faculté de médecine de plein exercice en Guadeloupe. Le défi a été lancé il y a un an avec la mise en place d'une quatrième année qui sera logiquement suivie de la cinquième et de la sixième année. L'heure est donc un premier bilan d'un pari qui n'était pas gagné d'avance. Olivier Lancien s'est entretenu avec le doyen de la fac, ou plus précisément la doyenne, Suzy Duflo.
En septembre 2023, il y a un an, une pétition avait circulé au moment de l'ouverture de l'internat au sein du CHU de Guadeloupe et de Martinique. Certains ont fait le choix de ne pas poursuivre au-delà de la troisième année. Malgré cette position de ces étudiants, la faculté attire notamment des anciens diplômés des premières années qui souhaitent revenir.
Il faut qu'on avance. D'une part, tous les étudiants l'année dernière et cette année qui ont demandé à poursuivre leur quatrième année dans l'Hexagone, toutes les demandes ont été acceptées. Charge à eux de trouver une faculté qui pouvait les recevoir. La deuxième chose, j'ai énormément le retour des étudiants qui sont partis, qui faisaient partie aussi de l'ancien régime avant la mise en place de cette faculté et qui me sollicitent pour pouvoir revenir aux Antilles. Il y a toujours des moments difficiles à passer. J'ai fait confiance et je continue de faire confiance aux enseignants qui sont présents. Je fais aussi confiance aux étudiants, notamment à ceux qui sont restés, puisqu'on est dans un climat réciproque de confiance. Le challenge est aussi grand pour eux que pour nous, réussir, revenir chez nous pour pouvoir travailler dans nos CHU. La Guyane va être CHU aussi à partir de 2025, a priori.
Prochaine étape pour la faculté Yacine Bastaro, l'ouverture cette année de la cinquième année et l'année prochaine de la sixième, puis l'examen dématérialisé pour les spécialités.
Bon après-midi Stéphane, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi. On poursuit en musique sur RFI avec deux groupes, le groupe Rawayana, c'est un groupe vénézuélien, et un autre groupe, il est colombien cette fois, c'est Monsieur Périnet. Ils se sont réunis tous les deux pour faire un morceau absolument exceptionnel qui s'appelle Hora Loca.
Amigo, regáleme un traguito que me sorprenda, una merienda, un dulce de su tienda, que me ponga a bailar suavecito, bien pegadito, con un guarrito que me hable bonito, y que me lleve pa' la playa sobre las olas, ay, que me mojen esas olas.
Sola.
Sé que se me nota, porfa que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una de colado. Esta noche no.
Et c'est en musique que s'achève RFI Midi, ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. À la réalisation Yannely Gouin, à la rédaction en chef Véronique Rigolet. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain, midi 11h30, temps universel, pour une nouvelle édition d'RFI Midi. À demain et très bon après-midi à l'écoute de la Radio du Monde.
Sé que se me nota, porfa que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una de colado. Esta noche no.
sé que se me nota. Porfa que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una.